Bonjour et bienvenue dans le podcast Penser la santé. Cet épisode est consacré aux questions posées par la santé en détention. Soigner en prison, c'est aussi être soi-même dans le quotidien de sa pratique, en prison. C'est être dépendant de l'organisation et des obligations de la détention. C'est travailler dans des espaces verrouillés, attendre que les portes soient ouvertes et fermées par les surveillants pénitentiaires, ne pas avoir accès aux malades lorsqu'on le souhaite, c'est se conformer à des règles de fonctionnement rigides qui modifient les relations, le rapport au temps et le rapport à l'espace. Le soin en prison questionne une forme de contradiction. Comment intervenir dans un lieu d'enfermement? Comment prendre soin d'une personne privée de liberté? Le soin se situe à l'intersection du droit et de la préoccupation sociale, mais comment peut-il atteindre celles et ceux qui sont séparés de la société? Depuis la réforme du système de santé pénitentiaire de 1994, le soin des détenus revient au service hospitalier public. Des unités sanitaires sont implantées dans les prisons, une prise en charge à l'extérieur peut être organisée, et pour les hospitalisations dépassant 48 heures, des services de soins à l'hôpital sont spécialement dédiés à l'accueil des détenus. C'est ce qu'on appelle des UHSI, des unités hospitalières sécurisées interrégionales. Malgré ces dispositions, la relation de soins est-elle altérée par ces conditions particulières ? Venir en aide, compatir, créer une relation de confiance permettant un soin de qualité, est-ce possible dans le milieu pénitentiaire ? Et au-delà de ces conditions, est-ce que le statut de détenu, parfois pour de longues peines, n'induit pas un désinvestissement ou une méfiance de la part des soignants ? Plus globalement, on peut se demander si soigner des délinquants et des criminels, leur consacrer du temps, de l'énergie et aussi des moyens matériels qui sont ceux de l'État, est moralement acceptable. Une autre question peut se poser, est-ce que cette mission de soins est cohérente ? Car la réclusion nuit à la qualité de vie et de fait à la santé des détenus. L'enfermement en cellule, la promiscuité, le manque d'activité physique, l'uniformité de l'alimentation, les possibles situations de violence, tout ceci altère la santé. Alors, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction de l'État à d'un côté organiser une incarcération qui nuit à la santé et d'un autre côté à organiser le soin des détenus en mobilisant ces structures publiques dans les deux cas? Est-ce que tout cela n'est qu'un cercle vicieux dans lequel les missions du soignant et du surveillant, agents publics l'un et l'autre, ne peuvent que s'opposer? Pour réfléchir à ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Aude Lagarrigue, qui est médecin, responsable du service de médecine en milieu pénitentiaire, qui regroupe les unités sanitaires en détention et l'unité hospitalière sécurisée interrégionale UHSI de l'hôpital Rangueil, et Julia Schmitz, qui est maître de conférences en droit public à l'université Toulouse-Capitole, spécialiste du droit pénitentiaire. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Julia, pour commencer, ma première question s'adresse à vous. Peut-être que vous pourriez nous rappeler quelle est la limite dans la privation de liberté et des droits et les droits que conservent les détenus. C'est-à-dire, lorsqu'on est détenu, quels droits on perd et quels droits on conserve en matière de santé?
Alors, on peut peut-être rappeler des paroles qui avaient été prononcées en 1974 par le président Giscard d'Estaing, dans une prison lyonnaise. Il disait la prison, c'est la privation de la liberté d'aller et de venir et rien d'autre. Ça signifie que les personnes détenues continuent à être titulaires de l'ensemble des autres droits fondamentaux. Mmh. Alors, c'est une lecture très abstraite, universaliste, qu'on adopte souvent pour appréhender les droits fondamentaux de la personne détenue, sans prendre en compte la réalité de la situation carcérale. Mmh. Il ne faut pas confondre, à mon avis, ce qu'on appelle la reconnaissance des droits, de leur exercice. Et en prison, cet exercice, il est nécessairement limité, entravé, par ce qu'on appelle les contraintes inhérentes à la détention. Mmh. On peut prendre l'exemple du droit à la vie privée et familiale, donc continue à jouir la personne détenue. Celui-ci est nécessairement entravé par l'isolement carcéral. Pour n'importe quel droit, que ce soit le droit de vote, le droit à la vie familiale par exemple, la personne détenue va devoir réaliser des démarches supplémentaires et surtout elle va dépendre de la médiation, de la diligence de l'administration pénitentiaire pour réaliser ses propres démarches puisqu'elle ne peut pas exercer elle-même directement ses droits fondamentaux. En plus de cela, l'exercice de ces droits va être entravé par des situations d'inégalité territoriale assez grandes. On peut penser aux chiffres de la surpopulation carcérale aujourd'hui qui atteint dans certains établissements, notamment ceux d'Occitanie, des taux de densité impressionnants comme du 200% de surpopulation. Et cette situation va nécessairement entraver l'accès à certains droits et notamment l'accès aux soins. Et en matière de santé, on peut constater qu'il existe une tension très forte entre la reconnaissance des droits aux personnes détenues et leur mise en œuvre dans la réalité, dans la pratique. On peut prendre l'exemple, par exemple, du droit à la continuité et à la qualité des soins qui est désormais reconnu depuis la grande loi pénitentiaire de 2009 à toute personne détenue. Donc, ça signifie que la personne détenue doit bénéficier de la même qualité de soins qu'une personne de la société libre. Or, cette mise en œuvre pratique du droit à la continuité, à la qualité des soins, va être entravée par l'insuffisance des ressources. L'insuffisance des ressources en personnel médical au sein des unités sanitaires, par exemple, dans certains établissements, ou bien l'insuffisance des structures hospitalières qui sont destinées à accueillir les personnes détenues. Vous mentionnez la présence des UHSI désormais. Ceux-ci sont très inégalement répartis sur le territoire national. Un autre droit qui est reconnu depuis la loi de 2009, c'est le droit au secret médical. Toute personne détenue bénéficie de ce droit comme tout individu libre. Sauf que ce droit au secret médical va connaître certaines limitations, certaines entraves. C'est notamment le contrôleur général des lieux de privation de liberté qui a pu constater dans de nombreux établissements que les courriers qui sont adressés par les personnes détenues au personnel soignant ne sont pas forcément souplis fermés. Ils peuvent être facilement lus, triés par les surveillants pénitentiaires.
En fait, une des difficultés dont je parlais en introduction à cette thématique, c'est un aspect plutôt moral, on pourrait dire. Comment le droit justifie de prendre soin des délinquants. Le sens de la peine de prison, qui est punitif, est-ce qu'il n'est pas en contradiction avec cette continuité des soins dont vous parlez ?
Alors, j'y vois deux choses. On peut ici aborder cette relation complexe, un petit peu ambigu entre la peine, le soin, punir en soignant, soignant en punissant. C'est un petit peu la logique du biopouvoir qui avait pu être décrit par Michel Foucault, ce processus de discipline sur les corps, mais aussi sur les esprits, qui avait d'ailleurs déjà été théorisé, on va dire, par l'utilitarisme de Bentham. Et la prison moderne, clairement, elle repose en grande partie sur ce qu'on appelle les théories de la défense sociale et qui renvoie à l'idée que pour lutter contre le crime, il s'agit de, pour mieux le prévenir, il s'agit de traiter les criminels. Et on a aujourd'hui des notions qui ont circulé, les termes d'amendement, de rééducation, de réhabilitation, ce qu'on appelle aujourd'hui la réinsertion, qui renvoient, tous ces termes renvoient à l'idée d'un traitement du détenu pour prévenir la récidive. Donc, il y a cette relation complexe entre la peine et le soin. Et il faut souligner d'autre part qu'il y a des vulnérabilités très particulières en détention, parce que et qui vont induire une prise en charge médicale beaucoup plus importante que dans la société civile. Les prisons sont clairement surreprésentées par des personnes qui sont en mauvaise santé, avec des taux de prévalence de certaines maladies mentales ou des addictions beaucoup plus élevés que dans la population générale. Ces personnes sont souvent confrontées avant l'incarcération à des facteurs de risque très importants, la toxicomanie, la marginalité, beaucoup de pathologies préexistantes. Et en même temps, des personnes qui sont aussi éloignées du système de soins avant leur incarcération. Et la prison, paradoxalement, va aussi générer d'importantes pathologies, des pathologies mentales avec ce qu'on appelle le choc carcéral, et puis des pathologies somatiques qu'on peut constater. Ça, c'est un état de fait assez généralisé. Par exemple, des pathologies somatiques telles que des occlusions intestinales, par exemple.
Après, sur cet aspect, je pense que c'est intéressant d'avoir un regard peut-être impertinent et de dire que finalement, l'accès aux soins est aussi facilité, paradoxalement, pour une partie non négligeable des détenus, par leur incarcération. L'incarcération permet de poser des diagnostics qui n'auraient pas été posés s'ils étaient restés en milieu libre. Et donc, finalement, cet aspect facilitateur de l'accès aux soins que peut aussi avoir la prison, même si, je suis d'accord, il est complètement inégal en fonction du territoire et de l'offre de soins qui est présente sur les établissements, c'est aussi un facteur qui peut faciliter la réinsertion du détenu à sa libération, puisque l'immense majorité des peines auxquelles sont condamnés les détenus en France sont quand même des courtes peines. Et notre travail de soignant, c'est aussi de se dire comment on peut investir ce temps qui est certes court pour avoir cet aspect de facilitateur de l'accès à une prise en charge de santé qui perdure dans le temps, y compris après la libération. En donnant aux détenus cette faculté à s'approprier un système de santé qui, parfois, pour lui, avant l'incarcération, est lointain, incompréhensible. Enfin.
Oui, c'est ce que j'allais souligner. C'est-à-dire que dans vos propos, on a l'impression que peut-être dans la population des détenus, on a des personnes qui ont une relation avec le système de santé qui n'est pas du tout évidente.
Voilà, qui n'est pas évidente. D'ailleurs, ils ont une relation pour certains à leur corps, pour les plus jeunes, qui est un peu dans une forme parfois de toute puissance. C'est donc une vision du système de santé comme inutile ou incompréhensible. Enfin, en tout cas, avec un niveau de littératie aussi, de compréhension du message sanitaire qui est bas. Et donc, une partie de notre travail, c'est d'améliorer ce niveau de littératie pour permettre une meilleure adhésion.
Et alors maintenant, si on parle justement des soignants, parce que bon, on parle des détenus, mais les soignants qui travaillent, qui font le choix de travailler en milieu carcéral, quand on sort de sa formation et qu'on fait ce choix, ça ne semble pas être un projet très évident. Il y a un côté, pourquoi vouloir soigner des délinquants? Pourquoi vouloir soigner des monstres, en quelque sorte? Et vous, il me semble que c'est le choix que vous aviez fait, que c'était très très tôt.
Moi, je suis l'exemple parfait d'intégration de ce service juste après l'internat. Mais c'est le cas de beaucoup des soignants qui exercent en prison. Et paradoxalement, on souffre, je pense, quasiment moins de problèmes d'attractivité que dans d'autres secteurs du soin. Et en tout cas, beaucoup moins de problèmes d'attractivité que l'administration pénitentiaire, qui est en grande difficulté pour recruter du personnel. Alors, je pense que d'une part, ça s'explique par le fait qu'il y ait de nombreux stages organisés pendant les études en secteur pénitentiaire, ce qui permet aux étudiants de finalement appréhender ce milieu qui peut faire peur a priori, et si ça fait disparaître des inquiétudes qui sont somme toute légitimes. Et puis après, les soignants, c'est une profession qui est en quête de sens, de façon très globale. Et ce milieu répond à cette quête de sens, puisque on va prendre en charge une population avec, comme on l'a dit, des facteurs de risque importants, des pathologies lourdes. Et en plus, on va avoir un intérêt d'un point de vue plus social, globalement. Donc, ça répond vraiment à ce besoin de sens qu'ont, je pense, les soignants, globalement. Et puis, il y a aussi la curiosité de la rencontre de ce milieu qui est un milieu fermé, auquel on n'a pas accès normalement. Et donc, je pense que ça aussi, ça nourrit. Alors, c'est pas une curiosité malsaine, mais à la fois en tant que citoyen et en tant que professionnel, on peut trouver un intérêt à connaître ce lieu, ce qui se passe dans ces murs, et à pouvoir en témoigner à l'extérieur.
Et alors donc, en prison ou dans les services dédiés aux soins des prisonniers, on retrouve des médecins, des infirmiers, des aides-soignants?
Tout à fait, des kinés, des psychologues, des assistantes sociales. Donc, il y a beaucoup de pluridisciplinarité et de transversalité. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi, je pense, un intérêt de cet exercice. Il y a beaucoup de psychiatres, de médecins spécialistes. En tout cas, à Toulouse, énormément de médecins spécialistes du CHU font la démarche de se déplacer en prison pour prendre en charge les détenus. Donc, non, il y a vraiment un intérêt globalement et qui, finalement, peut-être contraste un peu avec la difficulté qu'on peut avoir aujourd'hui dans certains secteurs ruraux à faire vivre l'offre de soins, alors qu'on y arrive dans des établissements qui sont pas très accueillants quand même dans leur organisation architecturale.
Et les soignants qui choisissent, ben, bon, vous c'est le cas, vous avez commencé par la prison, vous y êtes resté finalement.
Oui, c'est ça.
Est-ce que les soignants restent ? Enfin, je veux dire, peut-être ça peut être une partie de carrière et puis on passe à autre chose ou...
Alors voilà, c'est ça qui est plus étonnant, c'est le peu de turnover qu'on a dans le personnel soignant, alors que ce soit pour les infirmières ou pour les médecins. Alors après, c'est vrai que les médecins, c'est une profession où il y a historiquement peu de mobilité, que ce soit la mobilité géographique ou intellectuelle, puisqu'on est souvent extrêmement spécialisé sur un type d'exercice. Mais pour les soignants paramédicaux, il y a aussi peu de turnover. Et ça, j'allais dire, c'est à la fois réconfortant parce que ça colle bien avec l'idée de mission dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est des gens extrêmement investis qui sont donc dans une durée d'exercice pour accomplir cette mission, et à la fois un petit peu inquiétant, parce qu'on va aborder un peu après la difficulté qu'il peut y avoir à cet exercice où on est en proximité immédiate avec un autre corps professionnel qui partage pas tout à fait les mêmes ambitions. Et donc c'est un exercice qui est extrêmement fatigant, au risque d'être un peu dans une forme d'épuisement professionnel qu'il faut s'attacher à prévenir pour garder toute la qualité de la prise en charge qu'on est en devoir d'apporter à ces patients. Donc rester extrêmement vigilant sur cette fatigue et sur vraiment ces burn-out qui peuvent voir le jour dans ce milieu, je pense.
D'accord, donc il y a un équilibre à trouver avec ces conditions complexes sur lesquelles on va revenir, effectivement. Et alors, vous, comme médecin, lorsque vous abordez des détenus, lorsque vous les rencontrez pour les soigner, est-ce que leur statut influence votre approche de la relation de soins ? Alors, pour être plus précise, est-ce que le fait qu'il s'agit de criminels peut modifier le contact, ou est-ce que vous vous efforcez d'oublier ce statut-là ? Enfin, comment on fait avec ça ?
Alors, j'allais dire, il y a deux niveaux. Il y a l'institution prison et l'impact de l'institution prison qui est total sur la personne qu'on est amené à soigner. Et ça, l'impact, on ne peut pas s'en détacher, puisqu'il est primordial dans la façon qu'on va pouvoir avoir de prendre en charge le patient. On ne peut pas faire fi, en tout cas, de la solitude, de la dépression, du stress, de l'impact global de l'institution prison sur l'individu.
Oui, tout à l'heure, on parlait du choc carcéral, par exemple. C'est une donnée particulière que vous ne pouvez pas oublier.
Voilà, et j'allais dire, ce choc carcéral à l'entrée en prison, on va le retrouver à tous les moments qui jalonnent un parcours de peine. Donc, il y a le choc du procès, le choc du transfert entre établissements. Enfin bon, même si ce sont des chocs peut-être un peu moins violents dans leur traduction, ils impactent énormément la santé, alors qu'elle soit mentale ou physique, des détenus, et la façon dont on va pouvoir les accompagner.
Les mises à l'isolement également, où les soignants interviennent dans le processus d'ailleurs, parce que leur avis peut intervenir pour stopper, par exemple, pour limiter une mise à l'isolement dans un quartier disciplinaire.
Alors, ceci dit, ma question, c'était plutôt sur votre pratique à vous, votre clinique, c'est-à-dire dans l'approche, est-ce que ça suscite une sorte de retenue ou de méfiance, que sais-je ?
Alors, je pense bien répondre à cette question, il faut se placer dans sa situation de nouvel arrivant soignant dans ce milieu. Alors, c'est vrai qu'il y a des différences entre les somaticiens et les psychiatres. Les psychiatres vont probablement plus investiguer le passage à l'acte et son impact sur la santé mentale, et donc vont avoir connaissance de la nature de ce passage à l'acte, ou en tout cas vont le partager délibérément avec leurs patients. Les médecins somaticiens qui s'occupent plus du corps n'ont pas connaissance de fait du motif d'incarcération. Et donc, vont avoir une tendance naturelle à ne pas chercher à, à l'obtenir, à moins que le patient décide de le partager. Ouais. Et ce qui frappe finalement quand on entre en prison, c'est qu'en effet, en tant que soignant, on s'attend à retrouver cette image du monstre qui est socialement construite et qu'on ne retrouve pas.
D'accord.
Et qu'on ne retrouve pas du tout parce que... d'une part, on se rend compte que l'immense majorité des détenus sont condamnés à de très courtes peines et finalement font des passages flash éclair ou itératifs en détention. Et que ceux qui sont condamnés à de très longues peines, pour lesquelles on imagine qu'en effet le passage à l'acte a une gravité qui est majeure, eh bien, ils nous ressemblent étrangement. Donc, d'une part, en tant que soignant, on a de toute manière prêté serment et... on est dans l'obligation et morale, mais pas que, de prendre en charge tous nos patients, quelle que soit leur obédience, leur vie, leur passé. Et en plus, on se rend compte que les détenus qui sont condamnés pour les actes probablement les plus graves nous ressemblent étrangement et n'ont pas une figure d'altérité si différente de nous. Et que finalement... c'est à la fois rassurant parce que ça nous permet en effet d'être dans une forme de normalité de contact comme avec tous les patients qu'on peut prendre en charge à l'extérieur,
d'accord,
avec des affinités plus ou moins importantes en fonction des personnalités, des individus, mais ça c'est la réalité de la rencontre du patient, quel qu'il soit. Et à la fois une forme d'inquiétude parce qu'on se dit que finalement, s'il n'y a pas de figure du monstre, on est tous possiblement un criminel en devenir, en puissance, et que le passage à l'acte à la faveur d'événements de vie, de consommation, de, n'est pas réservé qu'à des individus qui seraient clairement identifiés au préalable, identifiables après. Enfin voilà, donc ça, ça génère quelque part aussi une forme d'inquiétude.
Oui, ça fait se questionner quand même aussi sur soi-même. Enfin,
complètement.
C'est quand même une relation de soins particulière. Alors, toute relation de soins renvoie à soi, sans doute. Hein, mais...
Oui, mais avec cette inquiétude spécifique que l'extrême violence ou l'extrême gravité dans un passage à l'acte n'est pas réservée à une catégorie d'individus qui soit si différente de moi, ou si différente de ceux que je rencontre à l'extérieur également.
Concernant la manière d'avoir accès aux soins, je reviens vers vous, Julia, à propos du comment, des modalités, c'est-à-dire les détenus, pour pouvoir demander un soin, demander un rendez-vous médical, doivent faire une demande écrite. Est-ce que ça, c'est un système généralisé ? C'est toutes les prisons pareilles ?
Alors, ça revient à l'idée que j'abordais tout à l'heure, cette idée de la médiation dans l'exercice des droits, que pour n'importe quelle demande en détention, la personne détenue doit passer par une démarche de demande, écrite ou orale, auprès d'un surveillant pénitentiaire. En matière de soins, le principe est effectivement la démarche écrite, avec, alors ça dépend, c'est variable, c'est généralement des formulaires ou sur un papier libre. Alors, nécessairement, ça limite, ça entrave le processus de la démarche d'accès aux soins. Il y a quand même, il faut le souligner, et de plus en plus maintenant, c'est extrêmement normé, il y a des visites médicales, des entretiens médicaux obligatoires à certains moments clés du parcours de détention.
D'accord.
D'abord à l'arrivée, au passage, ce qu'on appelle la phase d'accueil, la phase d'entrance en détention. Il y a une visite médicale obligatoire. Des visites obligatoires également en fin de peine. Et puis, dans tout un tas d'événements de la vie en détention. On parlait tout à l'heure de la mise à l'isolement ou en quartier disciplinaire. Et puis ensuite, tout le reste dépend de la demande de la personne détenue elle-même, qui va se faire donc en principe dans la plupart des établissements de manière écrite. Donc, il faut faire cette démarche écrite, passer par un formulaire qui va être remis à un surveillant. Et tout va dépendre, à partir de là, de la diligence avec laquelle cette demande elle va être transmise au service de soins. Il peut y avoir, dans certains établissements, des boîtes Des boîtes à courrier qui sont expressément prévues pour le personnel soignant. Et de plus en plus, se développe l'idée de la traçabilité de ces demandes. Ça, c'est extrêmement important. Mmh. Et l'introduction aussi, très importante, du numérique en détention, qui peut, sur ce point-là, par exemple, mais pas que, hein, pour l'accès à toute activité en détention, faciliter la démarche des personnes détenues et leur éviter d'avoir à passer par la médiation d'un surveillant pénitentiaire qui reste quelque chose de parfois très aléatoire. Et donc l'introduction de ce numérique en détention peut faciliter ce processus d'accès aux soins. Mmh. C'est en expérimentation, c'est pas généralisé. Dans des établissements, surtout les maisons d'arrêt où il y a un très fort taux de surpopulation, c'est extrêmement compliqué à mettre en œuvre. Donc forcément, tout dépend de l'établissement dans lequel on va être placé, avec des lenteurs de procédure plus ou moins importantes.
Justement, ces lenteurs, est-ce qu'elles ne peuvent pas, dans certains cas, constituer une perte de chance pour les détenus au niveau de leur santé ? Enfin, je veux dire, s'ils sollicitent pour un rendez-vous urgent, qu'on entendrait urgent dans le milieu ordinaire, est-ce que ça ne peut pas créer une aggravation, etc. ? Donc vous avez connaissance d'exemples, de conséquences. Après, je me suis aussi posé la question, est-ce qu'il est possible de faire un recours dans ce contexte-là ? C'est-à-dire, pour une perte de chance, est-ce qu'on peut faire un recours à l'encontre de l'institution judiciaire ?
Alors, le recours existe. Attention, ce ne sera pas un recours contre l'institution judiciaire. Ça, c'est la schizophrénie juridictionnelle. Ouais. Non, c'est un recours devant le juge administratif.
Ah, d'accord.
C'est le juge administratif qui va être compétent pour tout ce qui concerne le fonctionnement ou le dysfonctionnement du service public pénitentiaire.
D'accord.
Le contentieux est énorme. En D'accord. matière de soins, il y a un important contentieux sur la perte d'une chance, sur le suicide en détention. Mmh. Hein, les ayants droit qui cherchent à obtenir une réparation du préjudice subi et qui cherchent à mettre en cause la responsabilité administrative. Alors là, la difficulté, c'est que la question qui se pose vraiment, c'est de savoir qui est responsable de la perte de chance, d'un soin qui n'a pas été délivré, d'un suicide qui a été qui résulte par exemple d'un défaut de surveillance, d'un défaut de médication. Est-ce que c'est l'établissement de santé qui va être tenu pour responsable ou bien est-ce que c'est l'administration pénitentiaire? Et là, le contentieux est complexe, hein, je ne vous le cache pas, mais il est assez important. L'idée, c'est qu'il y a un partage de responsabilité. C'est-à-dire que la responsabilité de l'établissement de santé peut être mise en cause lorsque il y a eu un défaut dans la continuité des soins. Mais par contre, l'administration pénitentiaire peut être tenue pour responsable, et ça arrive très souvent, hein, lorsqu'il y a un défaut de surveillance. Par exemple, il y a des contentieux assez fréquents en matière d'isolement. Des personnes détenues qui sont placées à l'isolement, qui sont suivies par exemple sur le plan psychiatrique et où il y a pendant ce laps de temps une rupture de soins et donc un passage à l'acte suicidaire. Là, très souvent, l'administration pénitentiaire peut être tenue pour responsable pour défaut de vigilance. Ou bien elle va être tenue pour responsable pour n'avoir pas procédé à des diligences suffisantes pour qu'il y ait un personnel soignant en nombre suffisant au sein de l'établissement. Donc, c'est vraiment un système de responsabilité partagée assez compliqué à mettre en œuvre, mais les recours existent.
Alors, je reviens, parce que c'est aussi une manière d'aborder un peu cette question. En prison, on a d'un côté les soignants qui ont leur mission de soins et de l'autre côté les surveillants pénitentiaires qui ont leur mission de sécurité, de surveillance. Et on peut revenir sur l'exercice quotidien de votre pratique et c'est une manière de le dire un peu bizarre peut-être, mais vous avez à travailler avec ces surveillants pénitentiaires et je peux que supposer qu'il y a des contradictions entre vous dans le quotidien, c'est-à-dire avoir accès aux détenus, dans quelle temporalité, comment est-ce qu'on s'en sort pour donner de la place aux soins dans cette espèce de contradiction ?
Alors, c'est vrai qu'on parlait de médiation nécessaire pour tous les actes de la vie quotidienne par le surveillant pénitentiaire pour les détenus. Pour les soignants, on est quasiment dans la dépendance au quotidien de ce corps professionnel pour pouvoir prodiguer des soins aux patients, puisque sinon, on ne les voit pas, ils n'accèdent pas au système de soins. Alors que ce soit dans ce qu'on appelle les mouvements, c'est-à-dire les déplacements à l'intérieur, en particulier des maisons d'arrêt, des détenus qui sont enfermés 22 heures sur 24 et donc qui n'ont pas la liberté de se rendre à l'infirmerie, mais que ce soit aussi pour les extractions, c'est-à-dire les sorties de détenus des établissements pour pouvoir avoir des examens complémentaires sur le centre hospitalier de proximité. Donc, on a évoqué le contexte de ressources humaines qui est relativement compliqué pour et l'administration pénitentiaire, qui aggrave encore cette dépendance, puisqu'ils sont en grande difficulté de ressources humaines, et qu'en plus, la surpopulation dans les établissements nécessiterait des ressources humaines qui soient renforcées, alors qu'actuellement, elles sont en déficit. Donc, ça aboutit à tendre encore plus notre interdépendance, avec quand même une vision un peu inégalitaire, puisque on est probablement en tant que soignant plus dépendant des surveillants que les surveillants ne sont dépendants de nous, même si l'accès aux soins participe au maintien du calme et d'une homéostasie interne à la prison qui soit profitable pour eux. Et donc cette interdépendance, elle est vécue, et cette inégalitaire, elle est vécue par les soignants de façon assez violente, parfois de façon un peu... elle amène à une forme de revendication.
Ah oui, d'accord.
Qui peut aboutir à une forme de dogmatisme sur nos missions. Et quand on est dans ce conflit de valeurs, ça devient extrêmement compliqué au quotidien de travailler. Alors, c'est à la fois un conflit de valeurs qui est probablement nécessaire. Alors, nous, parfois, on dit pour ne pas bleuir. C'est-à-dire qu'en prison, il y a d'un côté les blancs, les soignants, et de l'autre côté les bleus. C'est-à-dire deux types d'uniformes, les surveillants. Et que ce dogmatisme sur nos missions et nos valeurs, il permet finalement qu'il n'y ait pas de porosité entre les deux champs professionnels et qu'on reste bien droit dans nos objectifs, droit dans nos missions. Néanmoins, la confrontation de ces valeurs, si elle est finalement stérile et qu'elle est trop figée, elle dessert chacun d'entre nous et surtout notre patient.
Et oui, bien sûr.
Voilà, donc tout l'équilibre réside à être dans une forme, alors c'est ce que Max Weber a assez bien expliqué, d'être dans une forme d'éthique de la responsabilité, sans oublier nos valeurs, en ayant en toile de fond nos objectifs et nos missions, mais en sachant que ce qui compte le plus, c'est qu'on puisse justifier de nos décisions et de nos actes pour le bien de nos patients, si on a accepté de transiger un petit peu avec certaines valeurs. Et le secret médical, qui est par exemple une des valeurs le plus en tension dans un établissement pénitentiaire, c'est une valeur qu'on est parfois et même très souvent amené à renier un peu, et le plus souvent, et j'allais dire même toujours, avec l'accord du patient, mais à son bénéfice. Donc voilà, l'idée, c'est de ne pas être trop rigide, pour ne pas, d'une part, être dans l'épuisement, être dans l'inefficacité et de pouvoir quand même garder en permanence ces valeurs comme notre gold standard, mais accepter que notre responsabilité, c'est parfois de les dégrader un peu pour être au service de notre patient.
Ce que je comprends, c'est que sans doute, exercer le métier de surveillant pénitentiaire, ça doit être hyper difficile, oui, avec beaucoup de tensions, avec ce que vous dites, c'est-à-dire le manque de personnel, la pression. Enfin. Et donc, c'est dommage que ce soit une confrontation. Finalement, je me disais que c'est parce que c'est vos premiers collaborateurs, en fait.
Tout à fait. Et puis, c'est surtout nos collaborateurs indispensables.
Ouais.
Et il faut comprendre que dans ce milieu qui est extrêmement clos, il y a des angoisses qui sont légitimes. Par exemple, la pathologie infectieuse, c'est une angoisse forte en détention. Et pour les patients et pour les surveillants qui n'ont pas notre connaissance des règles de transmission. L'épidémie de Covid a montré que l'administration pénitentiaire, en collaboration avec les soignants, savait gérer très bien, finalement, ces risques de transmission et en maintenant un niveau de confort pour les détenus qui soit acceptable. Néanmoins, voilà, ça reste une angoisse forte. Et par exemple, se rigidifier du point de vue du secret vis-à-vis des surveillants sur le risque infectieux pour certains détenus qui sont identifiés comme porteurs d'une pathologie infectieuse à l'insu de notre plein gré, mais parce qu'ils vont aller en consultation à voir l'infectiologue et que ça, en détention, bah oui, ça se sait. Mmh. En fait, c'est contre-productif. Mmh, parce que c'est vecteur d'angoisse importante et qui sont finalement qui se traduisent au quotidien par une perte de chance pour le détenu lui-même.
Mmh. Bah, je vous remercie beaucoup toutes les deux, Aude Lagarrigue et Julia Schmitz.
Merci à vous.
Merci, ouais.
C'était Flora Bastiani pour Penser la santé, le podcast du réseau de recherche Penser la santé de l'Université Toulouse Jean Jaurès.